bientôt, Keith Richards se tire plutôt bien. Un procès plusieurs fois différé, une plaidoirie qui lie l'usage de la drogue via Conan Doyle, Aldous Huxley ou Sigmund Freud au génie du client. Et on prétendra que Keith Richards est depuis 10 ans l'esclave de l'héroïne. Mais chaque fois que les Stones partent en tournée, comme une tournée s'est toujours enchaînée à l'autre, ce n'est pas tant que cela mentir. Surtout, le financier des Stones apparaît comme témoin pour comparer le revenu de Richards, $175,000 en 1975, $300,000 en 1976, $350,000 en 1977, à ses dépenses personnelles pour prouver que toute la différence est partie dans la drogue. Alors, Richards plaide coupable pour usage d'héroïne, mais on le dégage de l'accusation de trafic. Une lourde amende, $1,000,000 canadiens, et l'obligation de donner à Toronto avec les Stones un concert au bénéfice des aveugles. Richards estime qu'il s'en tire à bon compte, et les journaux ameutent l'opinion sur un jugement de complaisance.
Imagine the laughter among Rolling Stones fans. Ah, ça doit bien rire côté Rolling Stones.
Titre le Toronto Sun. Mais Keith est déjà dans le Concorde. On le sait parce que le Concorde a une panne et doit atterrir d'urgence à Dublin. Quand il est enfin à Roissy, il prend un taxi et s'aperçoit qu'il a oublié l'adresse de son propre appartement à Paris. Il doit téléphoner au bureau des Stones à New York pour qu'on la lui dise. Et le soir même, Keith Richards a renoué avec la cocaïne et probablement la seringue. Mais avec les autres Stones, ils s'enferment dans leur nouvelle base, les vieux studios Pathé Marconi à Paris, dont ils aiment l'espace, le bois et les anciens micros. En quelques semaines, parce qu'on n'est pas encore sûr de l'issue définitive de Toronto, ils enregistrent près de 50 maquettes de chansons qui fourniront à plusieurs albums. On improvise beaucoup. Et sans doute Mick Ironwood, à Londres, avec Jimmy Page, ont préparé déjà un peu du matériel. Le disque Some Girls, qui devait d'abord s'appeler More Fast Numbers, morceaux à jouer vite, prouve une santé retrouvée des Rolling Stones. Et même qu'on est encore capable de repartir en tournée, à condition de soumettre Keith quelques jours de plus à la boîte noire de Mike Patterson. La pochette de Some Girls, avec ses ombres chinoises monochromes aux lèvres reteintées en fluo, peinturlure de façon bien reconnaissable Raquel Welch, Marilyn Monroe et quelques autres personnalités féminines. Tandis que le pasteur Jesse Jackson, un des principaux militants du mouvement noir aux USA, appelle au boycott de l'album pour ses poétiques assertions du genre
« Black girls just want to be fucked all night ».
Parole Mick Jagger. La presse amplifie l'affaire. Et les Stones eux-mêmes n'ont que des arguments de défense plutôt limités.
Cela ne nous était pas apparu que notre parodie de certaines attitudes stéréotypées pouvait être prise au sérieux par quelqu'un qui écouterait jusqu'au bout les paroles de la chanson en question. Il n'y avait pas l'intention d'insulte, et si quelqu'un le reçoit de cette façon, on s'en excuse sincèrement.
C'est sans doute mieux que la première déclaration de Mick.
If you can't take a joke, it's too fucking bad. Merde alors, si on peut plus déconner.
Ou Keith Richards.
Why did we call it Some Girls? Because there were so many, I couldn't remember all their fucking names. Pourquoi ça s'est appelé Some Girls? Parce qu'il y en a eu tellement que je n'ai pas pu me rappeler leur putain de nom.
La position est intenable. Le boycott réel, et en juillet, on réimprimera le disque avec une nouvelle pochette des excuses publiques. Please, accept our apologies, dûment imprimées. C'est devenu cela, l'arrogance des Rolling Stones. rompu définitivement avec Anita, qui a remplacé l'héroïne par une consommation abusive d'alcool. Ces jours-ci, un jeune de 17 ans se suicide dans son propre lit, avec une arme volée en Floride lors d'une précédente tournée des Stones. Mick Jagger a pour sa part rencontré Jerry Hall, mannequin qui s'est doté de quelques principes simples pour garder Mick. Elle y parviendra pendant 20 ans, ils auront 4 enfants.
There are three secrets my mother told me. Il y a 3 secrets que ma maman m'a dit. Servante au salon, cuisinière à la cuisine et la pute au lit. Tant que j'ai une servante et une cuisinière, je me charge du 3e point toute seule.
Maintenir Kiss en activité forcée et sous surveillance. C'est en partie pour cela que Ron Wood lui propose de se joindre à un groupe provisoire, les New Barbarians, pour une tournée américaine où on jouera la musique solo de Ronnie. Étrange groupe, le premier de Kiss sans Charlie Watts, où il chante Apartment No. 9, seul sur scène au piano, avant de reprendre avec Ron les rengaines de toujours des Rolling Stones, comme au karaoké, sans leur chanteur.
Not so very long ago, you walked away from me.
Mais dès le départ de la tournée de 1981, Still Life, où en ouverture on joue Under My Thumb sur des accords de Duke Ellington, il est évident que Kiss et Mick, les Glimmer Twins, les jumeaux étincelants, amis depuis l'adolescence, ne s'adressent plus la parole. Alors on enchaînera encore jusqu'à 1983 des disques de faible mémoire, Emotional Rescue, Undercover of the Night, avec une rémission pour Tattoo You. Hors des semaines d'enregistrement à Paris, on ne se voit pas. La vie de Ron Wood...
Putain, c'était affreux. Tu avais Mick et Keith, tes copains d'enfance qui avaient fabriqué le putain de meilleur groupe du monde, écrit quelques-unes des plus belles chansons du monde, à dériver de plus en plus loin l'un de l'autre, en me laissant planter au milieu à chercher un nouveau boulot, alors que j'avais atterri dans le meilleur boulot de toute ma vie. Et pas un des deux pour dire « Ok, on arrête ». Parce que tous deux, ils tenaient encore au groupe, et l'un à l'autre. Mick s'était mis à croire que Keith le haïssait, et réciproquement.
Charlie Watts se lance enfin dans son rêve d'orchestre de jazz avec son Charlie Watts Orchestra. Bill Wyman soutient la recherche contre la sclérose en plaques par des concerts de musique des années 50. Mick tente à nouveau le cinéma, cette fois via le Fitzcarraldo de Werner Herzog, qu'il laissera tomber en cours de route. Et Keith Richards, qui rencontre Patty Hansen, semble enfin découvrir que le bonheur existe. Elle contraint même Keith à renouer avec son père, Bert Richards, l'ancien contremaître. En suivant les tournées des Stones pour jouer avec le fiston au domino, Bert sera peut-être celui qui le guérira définitivement de la tentation héroïne. Version Keith Richards de la brouille avec Jagger.
Les années 70, quand j'étais en pleine dope et que je ne faisais rien une fois les morceaux montés d'aplomb, rien du tout des affaires des Stones. Mick a pris tout le boulot sur ses épaules. Quand je m'en suis tiré vers la période d'Emotional Rescue, hey, je suis là, de retour, tout prêt, prêt à vous aider, prêt à faire mon boulot. Tout de suite, j'ai senti comme un ressentiment. Où j'aurais cru qu'il serait heureux de se décharger un peu ou ce genre de truc, il a pensé que je revenais pour essayer de prendre le contrôle. C'est là que j'ai senti les premiers froissements.
Les Rolling Stones. Stones tentent une réunion de conciliation, même Charlie Watts est à bout. On a proposé à Mick de reprendre sur scène avec les Stones quelques-unes de ses chansons solo, mais il ne veut plus tourner avec les Stones. On s'est rencontrés à Amsterdam, on a fini la réunion tard dans la nuit, et Charlie Watts, qui veut reprendre le premier avion pour Londres, s'est endormi sur un divan de la suite de Kiss.
Avec Mick, on était sortis boire un coup. Et à 5 heures du mat, on revient dans ma chambre. Il était bourré à ce moment-là. Et Mick bourré, c'est quelque chose à voir. Charlie était là à roupiller. Hey, « Eh, mais c'est mon batteur. Tu peux pas pousser ton cul de là ?» Charlie se relève. En costard, cravate et godasse, Savile Row, rasé, l'attrape et boum. Et l'on voit balader d'un coup de poing dans une assiette de saumon fumé. Mick avait mis une veste à moi. Ça m'a dégoûté. Ma belle veste préférée foutue. M'appelle plus jamais ton batteur. T'es que mon putain de chanteur. C'était la façon de Charlie de dire « C'est fini, mec. »
Jagger solo n'aura pas le succès qu'il en espère. Mais le disque des Stones, Dirty Work, quand il sort enfin, après toutes ces rumeurs de séparation, sera un échec complet. Pourtant, quand on écoute les bandes de répétition basées sur le jeu de guitare de Richards et Wood, c'est presque un retour à cette musique basique des Stones qui faisait leur force il y a 10 ans, comme dans la reprise de Harlem Shuffle qui en sera le seul succès. Comme Mick est absorbé par la promotion de son disque, l'ambiance est au vinaigre. On fait venir dans le studio l'organiste Hal Cooper, le chanteur Tom Waits qui répète à côté. On met Ron Wood au saxophone pour « Had It With You ». Et quand on tourne la vidéo de la chanson phare, « One Hit to the Body », qu'on a écrite avec Jimmy Page, on dirait que Richards et Jagger se battent pour de vrai.
« S'il part en tournée sans nous, je lui tranche la gorge. »
C'est ce qu'avait déclaré Keith Richards après « Lonely at the Top », le premier 45 tours solo de Mick, où le chanteur, pour remplacer son guitariste, a fait appel à Jeff Beck et Pete Townshend, de vieilles connaissances. Aussi bien sa musique n'était pas très neuve. L'événement des Rolling Stones, c'est que Bill Wyman, 45 ans, annonce son mariage avec Mandy, 16 ans, dont il s'avère qu'il l'a rencontrée 3 ans plus tôt, aguichée par la gamine qui cherche à ramener chez elle pour occuper sa maman divorcée, dit-elle, la rockstar en goguette. Bill a mis Mandy à ses frais dans un collège privé pour qu'elle complète son éducation. Ils ont des échappées discrètes dans des palaces d'Espagne et les couvertures des magazines s'en donnent à cœur joie quand il apparaît que la maman de Mandy, finalement, se console avec le fils du mari de sa fille. Le mariage durera peu, Pete Mundy préférera bientôt un jeune footballeur. Personne après Dirty Work pour considérer que les Rolling Stones existeront encore à nouveau un jour. Et encore moins quand Keith Richards, après son concert d'hommage aux 60 ans de Chuck Berry, décide lui-même de créer son groupe Expensive Winos, d'enregistrer un disque et de se produire seul.
He's not Pavarotti, is he? C'est pas Pavarotti, hein?
C'est ce que dira aimablement Bill Wyman pour commenter. Et pour encore mieux signifier que c'est la fin d'une époque, c'est le moment que choisit Ian Stewart pour s'éclipser définitivement d'un incident cardiaque. Thank you, Stu, for 25 years of Rolling Stones, écrira-t-on dans Dirty Work qui lui est dédié. Celui qui fut le second Rolling Stones après Brian est le premier à le rejoindre au paradis des musiciens, si c'est là qu'est Brian. En tout cas, Stu, qui tout ce temps a joué avec eux du piano sur la scène, mais toujours dans l'ombre, a toujours supervisé l'installation des concerts, coordonné les séances de studio et de mixage, serait peut-être bien le seul Rolling Stones à le mériter, le paradis des bluesmen.
Who's going to boss us around now? Qui c'est qui nous fera bosser maintenant?
C'est l'hommage de Charlie Watts. Et l'hommage de Mick Jagger est un petit peu plus distant, avec retour obligé au temps d'Edith Grove, comme si, une fois de plus, l'adolescence et ce qui la suit conditionnaient tout le devenir.
Stu a toujours été différent de nous. Il a fait partie du groupe musicalement, mais ce n'était pas complètement vrai, parce qu'il avait un vrai travail, une vraie maison, et il jouait du piano plutôt que d'un instrument électrique. Et même s'il aimait le blues, il ne baignait pas vraiment dans la musique qu'on jouait, tout le matériau rock.